Ah, j'ai supplié saint Thomas de vous éclairer, de vous illuminer et de vous donner un amour de plus en plus grand pour les trois sagesses. Alors, j'ai passé la fête de saint Thomas à Grand-Bourg, à la solitude. Nous allons terminer cette question 6, donc sur l'ordre, la manière dont l'ordre d'assomption des différentes parties de la nature humaine. L'article 6, la nature humaine a-t-elle été assumée par le moyen de la grâce? Vous voyez l'astuce dans saint Thomas, il faut remarquer ces choses-là. La grâce arrive ici, puis nous allons tout de suite, après, regarder la grâce du Christ. Presque toujours comme ça. Il y a une espèce de pierre d'attente qui est là pour entrer dans un autre sujet. Parce qu'avec le mystère de la grâce, c'est tout à fait, c'est autre chose. Alors, voici, cependant, le 7 contre 1, la grâce est un accident de l'âme. Ça fait plaisir aux orthodoxes. Or, l'union du Verbe à la nature humaine s'est faite hypostatiquement et non accidentellement. La nature humaine n'a donc pas été assumée par le moyen de la grâce. Oui, gratias quondam accidens. Hein. Comme quoi, les catégories aristotéliciennes appliquées au mystère surnaturel font que ça fait quelque chose qui ne va pas. C'est juste de dire que la grâce est un accident, mais c'est regarder entitativement, comme dit saint Thomas, et formellement et du côté de la finalité, la grâce est une nouvelle nature. Ça, nous le reverrons, c'est tout le traité de la grâce. Et c'est tellement important, parce que c'est là où on saisit le mieux le point de vue de l'être et le point de vue de la vie. Au plan métaphysique, l'être va plus loin que la vie. Au plan divin, la vie va plus loin que l'être, si j'ose dire. Nous sommes enfants de Dieu au point de vue de la vie, pas au point de vue de l'être, au sens strict. Nous sommes image de Dieu au point de vue de l'être, tandis qu'enfants de Dieu au point de vue de l'être, au point de vue de la vie. Nous sommes prédestinés à être enfants de Dieu. C'est le point de vue de la vie. Le point de vue de la vie va plus loin. C'est pour ça que tout le traité de la très sainte Trinité commence par la vie, pas par l'être. Il faut bien saisir ces choses-là, c'est très très important, c'est ça qui fait comprendre. C'est vrai, c'est subtil, je comprends très bien que c'est très subtil quand on regarde saint Thomas et qu'on n'est pas habitué du tout, alors on fait des contresens énormes. Ça, c'est toute l'analogie de saint Thomas. Parce que les orthodoxes, facilement, n'est-ce pas, disent « Ah, saint Thomas, c'est comme saint Augustin, c'est trop psychologique. » Nous, nous sommes dans l'ordre ontologique. Alors, on a envie de dire, mais l'ordre ontologique, c'est matériel. Et l'ordre de la vie, c'est pas psychologique. La vie, on peut la regarder psychologiquement et on peut la regarder philosophiquement. Et c'est toujours ce domaine-là, justement, qui n'est plus regardé. On ne sait plus ce que c'est qu'un regard philosophique sur la vie. Et je crois que toutes les confusions viennent de là, avec le dialogue qu'on peut avoir avec les orthodoxes. Je dis ça, c'est parce que c'est là, petit à petit, qu'on doit s'habituer à comprendre un peu ce langage de saint Thomas. Alors, voici le corps de l'article. Dans le Christ, il y a la grâce d'union et la grâce habituelle. Ça, c'est capital de bien comprendre ça. Vous voyez, c'est la division dans tout l'ordre de la grâce. In Christo ponitur gratia unionis et gratia habitualis. Donc dans le Christ, il y a la grâce d'union et la grâce habituelle. Qu'il s'agisse donc de l'une ou de l'autre, on ne peut concevoir la grâce comme intermédiaire dans l'assomption de la nature humaine. La grâce d'union, en effet, c'est l'être personnel lui-même qui, dans la personne du Verbe, a été donné par la grâce divine à la nature humaine et qui est le terme de l'assomption. Le terme de l'assomption, c'est la personne. Et la grâce d'union s'achève dans la personne. Il ne peut pas y avoir d'intermédiaire. La grâce habituelle qui sanctifie l'homme est une conséquence de l'union, une propriété, une quasi-propriété. Selon cette parole de saint Jean, nous avons vu sa gloire comme celle du Fils unique du Père, plein de grâce et de vérité. Ce qui signifie que, du fait que cet homme est Fils unique du Père, et il l'est par l'union, il possède la plénitude de grâce et de vérité. Mais si, par grâce, l'on entend la volonté de Dieu, mais voyez, c'est intéressant. Quand saint Thomas prend le traité de la grâce, il prend cette dernière signification ici en premier lieu. Ici, il la prend en dernier lieu. C'est toujours intéressant de regarder l'ordre qu'il prend et la perspective dans laquelle il fait. Parce qu'on pourrait dire, ben alors, on n'y comprend plus rien du tout. Ça dépend la perspective dans laquelle il regarde. Quand il essaie de traiter qu'est-ce que c'est que la grâce, il prend première signification. Si par grâce on entend la volonté de Dieu faisant un don gratuit, en ce sens il est vrai de dire que l'union s'est faite par grâce, c'est bien évident. La grâce alors n'est pas moyen, mais cause efficiente de l'union. Donc vous voyez comment on peut traiter, c'est très beau comme vision de la chose, et c'est très simple. Donc, la grâce comme volonté du Père. La grâce comme volonté du Père. Il est bien évident que le mystère de l'union hypostatique s'est fait par la volonté de Dieu. Volonté toute gratuite d'amour. Donc, elle s'est faite par grâce. C'est sûr. C'est pas par nature. Et ça, c'est la grâce qui vous rend aimable à Dieu. C'est Marie pleine de grâce. Elle est pleine de grâce. Pourquoi ? Parce qu'elle est enveloppée de la volonté immense du Père. Elle est enveloppée de la miséricorde prévenante du Père. Et donc, elle est pleine de grâce. Enveloppée de cette gratuité de l'amour. Enveloppée de cet amour particulier de Dieu. C'est ça le mystère de la grâce. Et cette volonté de Dieu crée en Marie, comme on dit, une amabilité. On est aimable pour Dieu parce que Dieu nous aime. C'est l'inverse pour la créature. Je ne peux pas dire que quelqu'un est aimable parce que je l'aime. Non. Mais je peux dire il est aimable et c'est pour ça que je l'aime. Oui, ça dit que lorsqu'il s'agit de Dieu, c'est l'inverse. C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes aimables à Dieu. Mais tout vient de Dieu, dans la gratuité absolue. Alors, première signification de la grâce. Deuxième signification de la grâce, grâce d'union. Grâce d'union du mystère de l'union hypostatique. L'union se fait dans la personne. Le terme de cette union hypostatique se fait dans la personne. Alors évidemment, il n'y a pas d'intermédiaire. C'est directement la personne qui assume la nature humaine. Et la nature humaine vit dans cette union hypostatique. Troisièmement, de la grâce d'union, il y a la grâce habituelle. La grâce habituelle qui fait que l'âme du Christ et sanctifié formellement. Oui, les deux saintetés dans le Christ, hein, nous verrons ça. Les deux saintetés. Première sainteté, il est fils du Père. Deuxième sainteté, il y a la plénitude de grâce en lui. Pour toute la théologie du cœur du Christ, c'est toujours ce qu'il faut regarder. Il y a les deux aspects qu'il faut toujours regarder. Il y a le point de vue de la grâce d'union et puis la grâce habituelle. Alors la grâce habituelle par rapport à la grâce d'union, nous allons le voir tout de suite, hein, par rapport à la grâce d'union, est un effet, une conséquence. Il y a la plénitude de grâce dans le Christ parce qu'il est fils bien-aimé du Père. Donc l'âme du Christ reçoit cette plénitude de grâce parce qu'il y a la grâce d'union. Donc c'est une conséquence. Si c'est une conséquence, ce n'est pas un intermédiaire. Je crois que c'est assez facile à comprendre, hein. Pas grosse difficulté à comprendre ça. S'il y a des difficultés, vous n'avez qu'à les dire, hein, parce que nous allons tout de suite passer vers quelque chose d'un peu différent. Alors, je vois les objections. C'est par la grâce que nous sommes unis à Dieu. Or, la nature humaine, dans le Christ, a été intimement unie à Dieu. Cette union s'est donc faite par la grâce. Notre union à Dieu se fait par les opérations de connaissance et d'amour. De là vient qu'une telle union se fait par la grâce habituelle. car une opération, quand elle est parfaite, procède d'un habitus. Mais l'union à la nature humaine, mais l'union de la nature humaine au Verbe de Dieu se fait par l'être personnel. Alors ceux qui regardent, cette unio naturae, cette unio naturae humanae ad verbum Dei est secundum esse personale. Hein. Pour ceux qui s'intéressent à l'esse personale, hein. Notez ce petit lieu qui est très intéressant. Parce que ça, c'est explicite hein, ici. L'union de la nature humaine vers le Verbe de Dieu est selon l'esse personnel. L'esse personnel, c'est l'esse du Verbe. Quod non dependet ab aliquabitu, sed immediate ab ipsa natura. Donc, je dis ça pour les deux essais dans le Christ. Hein. Les deux essais dans le Christ, notez bien cet esse personnel ici. Pas de difficulté, il suffit de comprendre justement ces trois aspects sur lesquels on appelle la grâce. Vous voyez, alors, le 7 contrat, faites un petit peu attention, parce que c'est le point de vue. La grâce est accident. Ici, la grâce habituelle, elle est habitus antitatif. Elle est nouvelle nature. Les deux analogies pensent à Thomas. Pour expliquer ce que c'est que la grâce habituelle. Première analogie, l'habitus antitatif, c'est un accident reçu dans l'âme. Et puis, elle est une nouvelle nature parce qu'elle est un principe de vie nouvelle. Il faut toujours prendre les deux analogies. Et ce que la grande scolastique de Jean Saint Thomas reprochera à Suarez, c'est de ne plus employer qu'une seule analogie. Et vous voyez, quand les orthodoxes s'opposent à saint Thomas, ils s'opposent en réalité à Suarez. Et ça, c'est toujours ce qu'il faut leur montrer. C'est la scolastique décadente et pas saint Thomas. Voilà, est-ce que vous avez lu saint Thomas? Ah non. Et vous osez dire que vous êtes contre? Je leur ai dit, une fois, plusieurs fois, parce que chaque fois que je le rencontre, c'est toujours saint Thomas. Est-ce que vous l'avez lu? Vous connaissez saint Thomas à travers la scolastique et à travers Suarez. Vous ne connaissez pas saint Thomas lui-même. Or, Suarez, hein, il applique l'habitus antitatif. Et c'est ce qu'on appelle le surnaturel quod modum. Et le surnaturel quod substantiam, c'est la nature. Et Jean de saint Thomas, qui est alors un très bon scolastique, le meilleur, je crois, scolastique, celui qui a le mieux saisi ce qu'était saint Thomas dans la perspective scolastique, dit que l'analogie habitus antitatif, c'est matérialitaire. Et la nouvelle nature, c'est formalitaire. Ça, c'est très bien. C'est très intéressant de voir ça. C'est que c'est l'analogie de la nouvelle nature, qui est donc principe de vie, qui peut seule nous faire comprendre formellement ce que c'est que la grâce. C'est-à-dire comprendre que la grâce, c'est vraiment une nouvelle nature, une nouvelle naissance. Et donc la grâce donne un nouveau rythme de vie, qui n'est plus le rythme de la nature humaine. Tandis que si je regarde que l'habitus antitatif, c'est un accident. Donc, aspect antitatif, c'est un accident. Si c'est un accident, ça ne peut pas donner un nouveau rythme de vie. Ça ne peut donner qu'une nouvelle efficacité. Alors on a le surnaturel quod modum. Ça, il faut le savoir. Hein, parce qu'il faut ça, comme on ne fait pas beaucoup de scolastique ici, il faut quand même savoir quelques grands aspects de la scolastique. C'est ce point de vue-là qui, de fait, à partir de Suarez, on n'a plus vu que l'habitus antitatif, et c'est ce qu'on a appelé l'habitude, la grâce pris du point de vue uniquement quod modum. Et on comprend quod modum, ça veut dire un mode qui vient s'ajouter, mais qui ne nous donne pas de nouvel objet. Tandis que le surnaturel pris quod substantiam, c'est une nouvelle vie qui a un nouvel objet. Et dans la perspective de Suarez, la foi n'a pas de nouvel objet. L'espérance n'a pas de nouvel objet. La charité n'a pas de nouvel objet. Ça n'a qu'une nouvelle efficacité par rapport au royaume de Dieu. Et donc, on dira uniquement qu'est-ce qui distingue un acte surnaturel d'un acte naturel, c'est son efficacité par rapport à la béatitude. Parce que l'un est méritoire et l'autre ne l'est pas. Alors, vous voyez qu'à partir de là, le point de vue de la contemplation devient une chose extraordinaire. c'est ce fameux livre du père Poulain, il faut l'avoir regardé quand même, hein, à propos des grâces d'oraison, qui montre que toutes les grâces d'oraison, c'est de l'extraordinaire. C'est du charismatique. Être contemplatif, c'est charismatique. Disons, être contemplatif, c'est tout simplement répondre à l'exigence de notre nouvelle nature. Vous voyez, c'est très intéressant parce que ça existe encore dans l'Église aujourd'hui. Hein. Ça existe dans l'autre jour, j'ai vu quelqu'un comme ça. C'était incidemment, parce que c'est de l'ordre de la philosophie, mais c'était le petit. J'avais demandé au frère Benoît de me remplacer à l'ULSH. Or, justement, il parlait de la contemplation. Là-dessus, quelqu'un a posé la question de la contemplation. Et cette personne, bien dirigée, du reste, saintement dirigée, se mettait dans la position. Et là, après, elle me dit, frère Jodin, je ne comprends pas. Là, je dis, écoutez, hein, je savais par qui elle était dirigée. Je dis, est-ce que vous avez lu le livre du père Poulain? Elle a dit non. Ah mais lisez-le, vous comprendrez tout. C'est un livre qu'il faut lire. C'est un livre merveilleusement intéressant au point de vue des citations. C'est d'une richesse d'informations extraordinaire. Une richesse d'informations, vous avez toutes les... C'est très beau, il faut lire ce livre. Hein. Poulain, vous ne l'avez pas? Ah vous l'avez, c'est évident. Le livre du père Poulain, il faut lire ça, les grâces d'oraison. Mais il faut corriger tout de suite la théologie sous-jacente. C'est très très intéressant parce que c'est quand même un livre. Il faut l'avoir lu parce qu'on est de fait en face de toutes ces difficultés. Il faut comprendre, au point de vue théologique, ce que représente la position de saint Thomas au point de vue de la grâce, qui a une influence au point de vue alors de la contemplation, qui a une influence par rapport aux dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, pour quelqu'un qui suit saint Thomas, c'est normal. Pour la théologie du père Poulain et des Suarésiens, c'est de l'extraordinaire. Donc, la contemplation, c'est de l'extraordinaire. Une vie contemplative, c'est... Alors, voyez, comme c'est contraire à toute la tradition de l'Église, il ne peut pas y avoir un ordre contemplatif, puisque c'est de l'extraordinaire. Vous ne pouvez pas baser un ordre charismatique. Les charismatiques, c'est toujours quelque chose d'individuel, ce n'est pas un ordre. Pour qu'il y ait un ordre, il faut que ce soit basé sur la grâce sanctifiante et sur les vertus. On ne peut pas faire un ordre contemplatif si la contemplation est charismatique, c'est-à-dire si elle est extraordinaire. Avoir des grâces d'oraison, c'est-à-dire des grâces de silence intérieur, de quiétude, pour employer le terme de sainte Thérèse, eh bien c'est de l'extraordinaire. Alors que c'est normal. C'est normal que le développement de la grâce en nous fasse qu'il y ait... Alors on pourra vivre longtemps d'aridité, c'est sûr, mais c'est normal. Vous voyez, alors c'est tout à fait le début de la des pères jésuites, c'est très intéressant. Les pères jésuites, au début, avaient des grâces extraordinaires d'oraison. Extraordinaires. Saint Ignace avait des grâces extraordinaires. Il pleurait tout le temps. C'est des grâces merveilleuses. Il avait des grâces. Et alors, vraiment, au début, il y avait des grâces. Et alors, un beau jour, on leur a dit, ah non, non, pas trop d'oraison. Pas trop, non, non, l'activité. C'est très cru, il y a eu un tournant à ce moment-là qui fait que, de fait, on a eu peur des grâces d'oraison. Et c'est pour ça que dans des enquêtes, on demande, est-ce que dans la communauté, y a-t-il des grâces extraordinaires de vision et de choses comme ça? C'est difficile. Tout juste, on ne demande pas s'il n'y a pas des grâces particulières de quiétude, de si. Hein. Bon, c'est très important ça, c'est très important de se rappeler ça. Hein. Les deux grandes analogies par lesquelles nous regardons le mystère de la grâce habituelle. L'habitus antitatif, donc la qualité, parce que c'est la qualité ça. L'analogie de la qualité, l'habitus. La première qualité, c'est l'habitus, et la nature. Vous voyez les deux analogies. Et ça, c'est très significatif. Saint Thomas se sert toujours de deux analogies qui, humainement parlant ou philosophiquement parlant, s'opposent et ne peuvent pas regarder la même réalité, mais qui, dans le mystère divin, alors s'unissent. Ceci pour nous faire comprendre justement que nous ne pouvons pas avoir une connaissance exhaustive du mystère. Oui.
Quand on dit que la grâce du Christ est cause exemplaire de la nôtre,
oui.
Est-ce que c'est la grâce habituelle?
On va le voir. Oui, c'est la grâce habituelle. On va le voir. C'est la grâce de la tête. Alors, seconde objection. De même que le corps vit par l'âme, alors ça c'est une analogie qu'il ne faut jamais oublier, hein. De même en effet que le corps vit par l'âme qui le perfectionne, de même l'âme vit par la grâce. Mais nous avons vu que la nature humaine est rendue apte à l'assomption par l'âme, elle est assomptibilée, c'est donc que l'âme est rendue apte à l'assomption par la grâce et que le Fils de Dieu a assumé l'âme par le moyen de la grâce. Vous voyez ? Ça, c'est extraordinaire. Hein, c'est très joli comme objection. L'âme parfait le corps substantiellement. La grâce parfait l'âme accidentellement. Et parce que l'union personnelle n'est pas accidentelle, la grâce ne peut ordonner l'âme à cette union, comme l'âme le fait du corps. Donc, l'analogie âme-corps, grâce-âme, c'est l'analogie de l'objection. Hein. Vous voyez que cette analogie, l'analogie porte sur, exactement comme pour les paraboles, hein. C'est le même raisonnement, c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que si on est habitué à l'analogie, on comprend tout de suite les paraboles. Si on est univoque, on ne comprend rien aux paraboles. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que l'analogie porte sur un point. Quel est sur le point ? C'est que, en effet, l'âme est fin du corps. La grâce finalise de l'âme. Mais au point de vue de la forme substantielle, l'âme est forme substantielle du corps. La grâce n'est pas forme substantielle de l'âme. Alors, si vous avez un esprit univoque, et nous l'avons tous quand on est fatigué, alors, dès qu'on a un esprit univoque, on retombe dans tout ce charabia. C'est-à-dire que, de fait, on dit oui, l'analogie âme-corps, grâce-âme, ah, mais c'est très simple. Donc, nécessairement, la grâce joue le rôle d'intermédiaire pour l'union hypostatique. Parce que c'est une forme substantielle de l'âme. Ah, pas du tout. C'est une analogie. L'analogie porte sur un point. Comme les paraboles, ça porte sur un point. Ça, c'est le langage qualitatif. C'est le langage symbolique et qualitatif qui porte sur un point et pas d'une façon uniforme. Autrement, on tombe dans les ornières. Donc, vous voyez, c'est facile à comprendre, ça. Troisième objection. Saint Augustin dit que le Verbe incarné est comme notre Verbe intérieur, exprimé dans la parole. Ça aussi, c'est une très belle analogie. C'est très beau, ça. Mais notre Verbe est uni à la parole par le moyen de l'esprit. Le Verbe de Dieu est donc uni à la chair par le moyen de l'Esprit Saint. Et en définitive, par le moyen de cette grâce. Alors, on glisse de l'Esprit Saint à la grâce. Par le moyen de l'Esprit Saint, on est tous d'accord. Vous voyez, parce que c'est justement la volonté du Père. L'Esprit Saint, il est au niveau de la volonté du Père. Il n'est pas au niveau de la grâce du... Alors, et en définitive, par le moyen de la grâce, qui est attribuée à l'Esprit Saint. Selon ce mot de l'apôtre, les grâces sont diverses, mais l'Esprit est unique. Mais justement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Les grâces sont diverses, mais l'Esprit est unique. Alors, réponse. Notre Verbe est uni à la parole par le moyen de l'Esprit. Verbum nostrum unitur voci mediante spiritu. Non que celui-ci soit la forme, mais plutôt le moteur de notre parole. Le dynamisme de la parole vivante, c'est l'esprit. C'est sûr, c'est ça qu'on appelle une parole vivante. C'est si elle est reliée au moteur. Tandis que si elle n'est pas reliée au moteur, c'est une parole qui n'est pas vivante. C'est une répétition. On a appris par cœur, pas besoin d'esprit. C'est la mémoire qui remplace l'esprit. Tandis qu'au contraire, la parole vivante est liée à l'esprit. Du Verbe intérieur, en effet, procède l'esprit. Du Verbe intérieur, en effet, procède l'esprit qui forme les mots. De même, le Verbe éternel procède du Verbe, éternel procède l'Esprit Saint qui a formé le corps du Christ. Mais il ne suit pas de là que la grâce du Saint-Esprit soit le moyen formel de l'union hypostatique. Tout simplement, c'est la distinction ici. L'Esprit Saint, c'est par l'Esprit Saint que l'union hypostatique s'est faite, c'est bien évident. C'est par l'Esprit, par la volonté du Père et par l'Esprit Saint. Et par l'Esprit Saint, le corps du Christ a été formé. Mais l'Esprit Saint n'est pas au niveau de la grâce, puisque c'est un effet. Alors, je crois que nous pouvons nous arrêter là et prendre maintenant, tout de suite, quelque chose de très important, plus facile pour nous, plus immédiatement facile pour nous, après le grand mystère de l'union hypostatique, après avoir essayé de saisir qu'est-ce que c'est que le mystère de l'union hypostatique, autant que bon, ça reste un mystère, hein. Mais nous avons essayé de comprendre les différents aspects du mystère de l'union hypostatique. Maintenant, nous allons regarder tout de suite question 7. Il nous faut maintenant considérer les réalités assumées par le Fils de Dieu en sa nature humaine, par voie de concomitance. Les unes ayant trait à la perfection de sa nature, les autres à sa défectibilité. Là, c'est très important de saisir tout de suite ça. Saisir le point de vue de la perfection de la nature et les autres la défectibilité. Pour ce qui est de la perfection, nous envisageons d'abord la grâce du Christ, puis sa science, enfin sa puissance. Les trois aspects. Donc, tout le traité de la grâce du Christ. Quelle est la grâce du Christ ? Oui, là, c'est les sujets très controversés aujourd'hui, hein. Ça, c'est sûr, ça, on entre là dans des... Le mystère de l'union hypostatique, on n'en parle plus, donc c'est simple. Mais tandis que lorsqu'il s'agit de la grâce, on en parle forcément, parce que c'est le point de vue de la vie du Christ. C'est forcé. Alors là, on est en plein champ de bataille. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre d'abord la vérité, pour ensuite saisir les erreurs. Parce que si vous commencez par les erreurs, vous ne découvrirez jamais la vérité. Alors, je crois qu'il faut prendre la position de saint Thomas ici, qui nous donne la perspective de la grande tradition de l'Église. C'est la perspective de la grande tradition de l'Église. Mais évidemment, si vous regardez un traité aujourd'hui du mystère du Christ, vous ne retrouverez plus du tout ces choses-là. Ça, c'est sûr. Ou vous les retrouverez dites d'une façon tout à fait différente. Donc, pour ce qui est de la perfection... Alors, la défectibilité, vous comprenez ce que ça veut dire. Pourquoi le Christ a assumé une nature capable de souffrir ? A-t-il assumé une nature capable de mourir ? Il aurait dû assumer une nature qui n'était pas capable de souffrir. Il aurait dû assumer une nature pas capable de souffrir, pas capable de mourir. Oui, la défectibilité. Est-ce qu'il a assumé une nature qui était capable de pécher ? C'est toutes ces questions-là. Alors, vous comprenez, c'est dans la lumière du mystère de l'union hypostatique que nous devons voir cela. Le mystère de l'union hypostatique nous fait comprendre l'être du Christ. Vous voyez l'analogie de saint Thomas, il faut bien saisir ça. Il y a toute une structure de ça. Quand vous regardez le point de vue du vivant, l'analyse que Aristote fait du vivant, Peripsuchès, hein, il étudie d'abord la distinction âme-vie. On essaie de découvrir l'âme et le corps. Puis on voit les différents degrés de vie. Là, il y a l'unité. Il y a trois degrés de vie. Les degrés de vie se prennent du côté des différentes puissances. Les puissances vitales. Au niveau vie végétative, vie sensible, vie spirituelle. Trois degrés de vie. Une unité substantielle. Là, c'est l'être. L'unité substantielle. Je suis au niveau de l'être du vivant. Le vivant a une unité d'être. Et puis, trois degrés de vie. Et à partir des trois degrés de vie, vous voyez les opérations. Les opérations diverses, hein, multiples. Mais il y a les puissances. Eh bien, il y a quelque chose d'analogue ici. Bien comprendre. On étudie ce vivant particulier qu'est le Christ. Ce vivant unique. C'est le vivant par excellence. Alors, parce qu'il est le vivant par excellence, la grande vision d'Apocalypse, les quatre vivants. Alors, ça n'intervient pas du tout dans ce que dit saint Thomas. C'est un point de vue symbolique qu'il faudrait reprendre d'un point de vue théologie mystique. Et comprendre pourquoi c'est les quatre vivants. On essaiera de le voir, du reste. Mais c'est intéressant que saint Thomas, ici, lui, de fait, essaie de comprendre l'unité substantielle. Quelle est l'unité substantielle du mystère du Christ? L'union hypostatique. L'être du Christ. Il faut d'abord étudier la structure de son être. Quelle est la structure de son être? C'est que le Verbe assume la nature humaine dans l'unité personnelle. C'est tout ce que nous avons essayé de voir jusqu'à maintenant. La structure de l'être du Christ comme vivant. Ce vivant est unique, il est fils bien-aimé du Père, en qui le Père a mis toutes ses compétences. Puisqu'il est fils bien-aimé. Nous allons maintenant essayer de comprendre les conséquences de cette union hypostatique. Alors, les trois degrés de vie, vous voyez bien, c'est pas les trois degrés de vie, parce que ça serait d'ordre philosophique dans la nature humaine du Christ. Bon, ceci est dépassé pour voir tout de suite la plénitude de grâce. C'est la plénitude de grâce que nous voyons. Parce qu'il est le fils bien-aimé du Père, il y a en lui une plénitude de grâce. Parce qu'il est le fils bien-aimé du Père, il y a une plénitude de connaissance. La science du Christ. Parce qu'il est bien-aimé, il y a une plénitude de puissance. Alors il faudrait bien comprendre. Hein, plénitude de grâce, connaissance, puissance. Hein, c'est la division que prend saint Thomas ici. Pourquoi ne met-il pas l'amour après la science? C'est intéressant de voir cette division qu'il donne. Plénitude de grâce, connaissance. La connaissance, on comprend très bien. Les degrés de vie se prennent du côté de la connaissance. Et donc, si je veux savoir quel est le degré de vie, si j'ose dire, de ce vivant qui est le Christ, il faut regarder sa connaissance. Il faut essayer de comprendre ce que c'est que la connaissance. C'est pour ça que dans le traité de saint Thomas, ça prend une telle place. Chose très importante dans saint Thomas. Et puis le point de vue, évidemment, ça s'enracine dans le point de vue de la plénitude de grâce. Mais vous voyez bien à quel niveau on se situe. Il y a d'abord le point de vue de l'être. Ici, on va commencer le point de vue de la vie. C'est pas encore le point de vue de la vie, puisque c'est analogue au degré de vie. Analogue. Hein. Mais c'est très différent, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est quelque chose qui est comme une conséquence. Alors, la perfection, donc, pour ce qui est de la perfection, nous envisageons d'abord la grâce du Christ. Alors, on verra la perfection, puis on verra l'aspect, au contraire, les capacités de souffrance. Il a assumé une nature humaine capable de souffrir, capable de mourir, mais sans péché. Alors, voyons tout de suite le point de vue de la grâce. Comme il a déjà été traité de la grâce d'union, une double recherche seulement s'impose à propos de la grâce du Christ, selon que nous considérons le Christ en son humaine individualité ou nous le regarderons comme la tête de l'Église. Ça, c'est très intéressant de voir cette petite distinction. La grâce peut se traiter de trois manières. La grâce de l'union, et quand on parle de la grâce de l'union, c'est le mystère de l'union hypostatique. La grâce selon qu'il est un homme singulier, Jésus, et selon qu'il est tête de l'Église, caput ecclésiae. Oui, c'est votre réponse, tant qu'il est exempt. Vous voyez bien. Alors, on va d'abord traiter Jésus, l'homme singulier. Y a-t-il dans l'âme du Christ, alors sous ce point de vue-là, se pose donc premièrement, y a-t-il dans l'âme du Christ une grâce habituelle? La grâce d'union suffit, il n'y a pas besoin de grâce habituelle, vous voyez. On voit tout de suite cette question-là. Et ça, c'est une conclusion du théologien. Ce qui nous est donné au point de vue de la foi, c'est la grâce d'union. C'est la grâce d'union qui nous est donnée au point de vue de la foi. Immédiatement, je crois que le Christ est fils de Dieu.
Vous voyez ? La grâce habituelle aussi, il était plein de grâce.
Oui, oui, mais venez, je dis comme définition d'église. Vous voyez ? Autre chose, tout est révélé. Vous voyez ? Mais alors, comment le comprendre ? C'est le comment, le commodo. Vous voyez ? C'est ça que je veux dire, c'est le commodo. Parce que je pourrais dire, on va le voir du reste progressivement. Deuxièmement, le Christ a-t-il possédé les vertus ? A-t-il eu la foi ? Grave question. Hein ? Vous voyez, tout de suite, on entre dans les controverses aujourd'hui. Là. Ça, immédiatement. Ça, c'est... Là, on ne peut pas trop. On dira, oh non, saint Thomas a beaucoup trop détaillé, c'est de la chinoiserie. Non, pas la peine d'aller jusque-là. Grâce d'union, tout simplement, la personne. Oui, oui, c'est quand même. Tout est commandé par l'union personnelle. Tout est commandé par ça. C'est dans la personne que se fait l'union. Et dans la personne du Verbe. Ça, c'est de foi. Je ne peux pas modifier ça. Je peux évidemment dire, je n'ai pas besoin d'explication. Moi, je suis un croyant, un bon charbonnier, croyant. Je ne veux pas aller plus loin. Alors, je crois. C'est tout. Et puis, toutes ces explications, ça, plutôt, ça m'enlève la foi. Je me souviens, quand je faisais des petits cours de théologie à Fribourg, j'avais un gynécologue qui y assistait. Et puis, au bout de quelques cours, il m'a dit, ça m'enlève la foi. Il a dit, alors, venez surtout plus. Parce que si la théologie vous enlève la foi, c'est dangereux. Et je comprends ce qu'il voulait dire. C'est que c'était une réflexion à laquelle il n'était absolument pas habitué. Alors une réflexion à laquelle on n'est pas habitué, ça complique. C'est vrai, il y a une phase de complication, comme toujours, quand on commence à entrer dans une science, c'est compliqué. Puis alors, après, petit à petit, ça simplifie. Parce que ça enlève toutes les fausses images, hein. Toutes les imaginations que nous pouvons avoir. Alors ça supprime tout ça, parce qu'on a des quantités d'images, de fantasmes. Alors ça fait dégringoler tout ça, vous voyez, le brouillard du matin, quoi. Pour arriver petit à petit à dépasser ça, pour arriver à quelque chose qui est beaucoup plus limpide. Donc le Christ, y a-t-il eu l'espérance ? A-t-il possédé les dons du Saint-Esprit ? A-t-il possédé le don de crainte ? Les caries se trouvent-ils dans le Christ ? Oui, comme c'est actuel. Hein. Le Christ a-t-il été le premier des charismatiques ? Est-ce que la vie chrétienne, c'est la vie charismatique ? Il est le premier des charismatiques. Il est le charismatique numéro un. Alors donc, il faut tous être charismatiques. Le Christ a-t-il possédé le charisme de la prophétie ? Y a-t-il eu en lui la plénitude de la grâce ? Une telle plénitude est-elle propre au Christ ? La grâce du Christ est-elle infinie ? Est-ce que Marie aussi a la plénitude de grâce ? La grâce du Christ a-t-elle pu croître ? Quel est le rapport de cette grâce à l'union hypostatique ? Vous voyez, c'est intéressant qu'ici encore, c'est le dernier article qui est immédiatement en relation avec le mystère de l'union hypostatique. Et d'une certaine manière, tout est pour ce dernier article, scientifiquement parlant. Relier la grâce de l'union hypostatique à l'union, relier la grâce habituelle du Christ à l'union hypostatique, c'est l'effort scientifique de la théologie, de voir le lien. C'est pour ça que, normalement, on devrait voir tout de suite l'article 13. Vous voyez ? Tout de suite. Et tout est commandé par cet article 13. Tout le reste. Alors, faites-le vous-même, parce que c'est intéressant à le faire. Voyons tout de suite, y a-t-il dans l'âme du Christ une grâce habituelle ? Alors, l'existence de cette grâce habituelle, c'est l'article premier. Puis ensuite, une fois qu'on a vu l'existence, on voit le lien avec le mystère de l'union hypostatique. Et entre deux, toutes les conséquences. Oui, pour voir la structure de cette question. Alors, cependant, il est écrit dans Isaïe, « L'Esprit du Seigneur reposera sur lui. » Nous savons par ailleurs que cette manière de parler employé à propos d'un homme s'entend de la grâce habituelle. C'est donc que le Christ a possédé cette grâce. Il aurait pu prendre évidemment un autre texte, hein, le texte que vous citiez tout à l'heure, de sa plénitude, nous avons tous reçu. Et alors il le prendra plutôt par rapport à la tête. Alors, il faut admettre la grâce habituelle dans le Christ. Necesse est ponere. Mais c'est plus fort, hein, le texte latin, qu'il faut admettre. Il est nécessaire de poser dans le Christ la grâce habituelle. Nécessité de théologien scientifique. Donc c'est une conclusion scientifique pour saint Thomas. Il est nécessaire, necesse est, ponere in Christo gratiam habituelle, propter triam. Premièrement, alors on donne les trois raisons. En premier lieu, à cause de l'union de son âme au Verbe de Dieu. Plus un être soumis à l'action d'une cause est à proximité de celle-ci, plus il reçoit son influence. Principe général. Vous voyez, l'union, le rapport entre la cause et l'effet. Vous voyez, alors, comment le théologien assume-t-il la philosophie d'Aristote, hein, c'est le commodo. Vous voyez bien le lien entre la cause et l'effet. Or, la source de la grâce, c'est Dieu, selon cette parole du psaume, le Seigneur donnera la grâce et la gloire. Il convenait donc souverainement, et ideo maxime fuit conveniens, maxime fuit conveniens. La convenience maximée ne peut pas aller plus loin, et que l'âme, cette âme, récipérait in fluxum divine gratiae, que cette âme reçoit l'influx de la grâce divine. Il convenait donc souverainement que l'âme du Christ reçut l'influx de la grâce divine. C'est très très simple comme raisonnement. Plus vous êtes proche du feu, plus vous êtes proche d'une source de chaleur, le feu, plus vous avez chaud. Ça ne peut pas être autrement. Si on est proche d'une source, ben on reçoit plus que si on est loin. La proximité, ça, n'oublions jamais. Pour que la causalité puisse exister, il faut le contact. Plus le contact est fort, plus la causalité peut se donner. La source de toute grâce, c'est la Très Sainte Trinité. Être uni personnellement à la Très Sainte Trinité, on ne peut pas être plus uni. Donc, nécessairement, l'âme de Christ reçoit en plénitude la grâce. Oui, c'est ce lien très simple entre la causalité et l'effet. Ce qui nous montre tout de suite, hein, que la grâce habituelle telle qu'on la regarde ici, l'effet du mystère même de la Très Sainte Trinité, par la proximité dans l'union hypostatique. C'est une simplicité, il faut l'avoir trouvée. Mais vous voyez bien que si on n'accepte plus la causalité, on ne peut plus accepter cet argument. Or, depuis Kant, la causalité est tordue et on ne peut plus l'appliquer à Dieu. Qui fait toute l'objection, ça. Vous ne pouvez pas appliquer le principe de causalité à Dieu depuis Kant. Puisque le principe de causalité à partir de Kant se prend uniquement du côté du conditionnement. Or, la plupart des intelligents d'aujourd'hui n'ont pas dépassé Kant. Vous savez bien. Il y a quelques années, les théologiens se sont réunis, des théologiens remarquables, se sont réunis pour essayer de ne pas parler du mystère des preuves de l'existence de Dieu, ils ont dit ouvertement, nous ne pouvons pas aller au-delà de Kant. Et le livre est paru au CERF. Ben, c'est extraordinaire, on ne peut pas aller au-delà de Kant. Et alors on a essayé de comprendre à partir de Kant. C'est très significatif ça, preuve de l'existence de Dieu, donc c'était la causalité. Et donc la causalité, on ne peut plus avoir une autre conception de la causalité que celle de Kant. Si on ne peut plus avoir un autre principe de causalité, alors cet argument ne vaut plus du tout. Parce que oui, pour Kant, c'est tout simplement le rapport antérieur et postérieur. Donc au niveau du conditionnement. C'est la causalité telle que vous l'avez en science physique. En philosophie, la causalité n'est plus un principe. La causalité n'est plus qu'une relation. Alors, si c'est une relation, je ne peux pas l'appliquer à Dieu. C'est impossible, je ne peux pas appliquer cette relation à Dieu. Ce n'est plus un principe. Si je peux appliquer la causalité à Dieu, c'est parce que la causalité est un principe et n'implique aucune imperfection. Être cause efficiente, ça n'implique aucune imperfection. Être cause finale, ça n'implique aucune imperfection. Donc, je peux l'appliquer à Dieu. Ça, c'est très, très important de se le rappeler, parce qu'il faut essayer de saisir pourquoi certains refusent ça. C'est parce qu'ils restent dépendants de la philosophie de Kant. Kant a marqué au fer rouge les théologiens. Beaucoup de théologiens, du moins. Beaucoup de théologiens. C'est la première chose qu'on a à faire quand vous lisez un livre de théologie. A-t-il dépassé Kant ? Tout de suite, il faut se poser la question. Alors, une fois que vous voyez qu'il n'a pas dépassé Kant, vous savez par avance tout ce qu'il va dire. Il faut tout de suite saisir ça. Et vous le saisissez par le point de vue de la causalité. Vous savez, c'est la bête